France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Et pour bien commencer cette nouvelle saison, j'accueille Jean-Pierre Calfon, figure attachante et singulière du cinéma français dont il a traversé toutes les aventures, en témoigne une rétrospective à la Cinémathèque. Mais Jean-Pierre Calfon est aussi un cœur de rocker et un amoureux de la musique. Nous évoquerons ensemble ses disques, ses groupes, ses admirations. En fin d'émission, Serge Laïc nous parlera du chef d'orchestre et arrangeur Glenn Hauser. Et pour commencer, coup de chapeau à la voix charmante qui nous a quittés cette semaine.
T'en vas pas comme ça,
sans me donner la moindre chance.
T'en vas pas comme ça,
en ignorant mon existence.
Tu ne peux pas me quitter sans m'écouter, car il n'y a rien de vrai dans ce que l'on t'a dit. Je t'en supplie, va pas comme ça.
À chaque instant, chaque seconde,
tu étais pour moi
le seul amour, le seul au monde.
Pour toujours, je t'ai juré fidélité, je ne t'ai jamais trahi. Seul jour de ma vie, je t'en supplie, t'en vas pas comme ça, t'en vas pas comme ça. Je ne suis plus rien sans toi. Comme ça, t'en vas pas comme ça, car je sais bien que tu m'aimeras toujours.
Ah, évidemment, c'est un peu triste de commencer une rentrée avec un adieu, mais comment ne pas la saluer, Nancy Holloway, qui avait connu un immense succès en 1963 avec cette chanson. La preuve d'ailleurs, notre réalisatrice Christine Amado connaît les paroles par cœur, alors qu'elle était vraiment très très petite au moment où c'est sorti, sur des paroles de Pierre Delanoë pour la version française et des arrangements de Jean Lexia. C'était une chanson américaine créée à l'origine par Dionne Warwick et reprise par d'autres, comme Les Chats Sauvages. Et puis Nancy Holloway, voilà, cette américaine de Cleveland, installée en France, on l'avait revue ces dernières années dans les tournées Hache Tendre et Tête de Bois. Elle nous a quitté le 28 août à l'âge de 86 ans. Ah, je la trouve ravissante, cette polka des tambourins d'Emil Waldteufel. Vous savez, le Johann Strauss français, comme on dit parfois ici, par l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg sous la direction de Theodor Guschelbauer. Vous l'avez entendu juste avant l'émission, nous serons tous la semaine prochaine à Toulouse, à la librairie Ombre Blanche en direct. Et pour ma part, je vous le signale, parce que je sais que beaucoup de lyricomanes vont être heureux de ce rendez-vous, j'accueillerai la grande artiste lyrique Jeanne Berbier qui sera avec moi. Et nous écouterons évidemment quelques-uns de ses enregistrements en compagnie également de Christophe Gristy, le directeur de l'opéra du Capitole, avec la jeune chanteuse Anaïs Constance qui nous chantera quelques mélodies, et avec également Cécile Nougaro, la fille de Claude Nougaro, qui nous parlera de ce qu'elle fait pour la mémoire de son père. Donc rendez-vous à 11h, et puis aussi pour les autres émissions bien sûr de France Musique, à 11h samedi prochain à Toulouse, à la librairie Ombre Blanche, où vous êtes les bienvenus.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et comme je vous le disais, mon invité ce matin est à l'honneur à la Cinémathèque, où l'on pourra le retrouver du 11 au 15 septembre dans quelques-uns de ses grands rôles. Mais son premier rêve, eh bien, c'était d'être chanteur et musicien. Il l'est d'ailleurs devenu au moins pour une partie de sa vie, comme nous allons le voir dans un instant. J'accueille aujourd'hui monsieur Jean-Pierre Calfon.
Pas né, pas né, je ne suis pas né paumé dans la rue, pas venu chez moi non plus. Malin, pas pris dans la panique, bébé béton dans une clinique. Ah. Père importé et mère papiste, planté côté colonialiste. J'étais fait pour cette bande de rock'n'roll, la mode gypsy, la rock'n'roll band. L'école, la colle, je décolle pas triste, me mettre chiffon chez les artistes. Courir, voler, les tomber toutes, une embellie et je prends la route. Jamais parti de rien, arrivé concerné par tout. Je déguste mais je n'achète pas tout. Non, ce fut cheap, c'est rock'n'roll man. Piégé dans une peau qui me survolte à contre-temps. On rame pour me débarquer, je pagaille pour pas me faire larguer. J'en crève de te crier je t'aime, je débloque pour pas déraper. Aligne-toi, rejoins cette bande de rock'n'roll, nama de gypsy, rock'n'roll band. Avant ma naissance, une guerre braquait la race de mon père. Ma mère gauloise se planquait comme mon père et me planquait. Fuir l'embrouille, j'ai ça dans le sang, la parano c'est le contre-champ. Je n'en veux plus de ce bleu, injecte-moi du funky, j'ai fait rock'n'roll.
Bonjour Jean-Pierre Calfon.
Bonjour Benoît.
Voilà un titre du début des années 80, Gypsies Rock'n'Roll Band. C'est vous donc qui chantez, hein, qui vous l'avez même écrite cette chanson. Hein.
Oui, j'ai écrit paroles et musique. Oui. Maintenant je la fais, mais j'ai encore changé l'arrangement et j'ai changé les paroles.
Vous la chantez toujours en public ?
Oui, oui, bien sûr. Bah oui, c'est la saison où je me présente. Hein. Donc comme ça, après c'est fait, il n'y a plus rien à... J'ai tout dit sur moi, on peut passer à autre chose.
Mais vous êtes plutôt un gypsy ou plutôt un rocker alors ?
Les deux.
Les deux.
Les
c'est
deux,
le sujet de la
commandant chanson.
Et en tout cas, voilà, on le comprend aussi quand on lit le livre que vous avez publié il y a quelques mois. Vraiment, oui, le rock and roll, la musique d'une façon générale, c'est presque aussi important dans votre vie que le théâtre et le cinéma.
Bah, c'est ce que je voulais faire chez, ouais. Et de la musique. Oui. Ouais. Mais chez mes parents, j'emmenais trompette, trombone, guitare, ils me faisaient jeter. Donc je suis parti chez mes parents, j'ai fugué, je me suis débrouillé dans la rue. Et quand on est dans la rue comme ça, on peut pas faire de la musique. Ouais. Donc j'ai trouvé quelqu'un à droite, à gauche, et j'ai réussi à aller vers le théâtre et le cinéma qui sont venus à moi après.
Mais chaque fois que vous avez bu, vous êtes retourné vers la musique, d'une
certaine
façon.
Ah bah oui, oui, bien sûr, bah parce que c'est une passion pour moi. Et puis c'est une école aussi, la musique. Vous voyez, les acteurs ont fait ça librement. Je veux dire, on peut travailler, ça se travaille petit à petit, on peut aller spontanément aux choses. La musique a respecté la mesure, la justesse, machin. La musique est un maître en soi, quoi.
Voilà, alors on va en parler bien sûr ce matin, et puis moi je suis très content aussi de vous recevoir, parce que je dois vous avouer que quand j'avais 20 ans et que je me glissais timidement au bain-douche dans la grande salle en haut, je vous apercevais, et pour moi vous étiez un personnage un peu mythique, hein. Vous étiez l'acteur underground, le type qui avait eu une vie aventureuse, risquée parfois, et j'ai eu l'impression en lisant votre livre que c'est un peu votre sentiment aussi. Vous dites que vous avez beaucoup zigzagué.
Bah oui, oui, zigzagué parce que j'aime bien suivre mon instinct et suivre les gens qui m'amène quelque chose, qui me provoque quelque chose et tout. Je veux dire, la vie, c'est aussi ça. La vie, c'est un cahier des charges à remplir avec une page tous les jours. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Et cette page-là, il faut en faire quelque chose. Il ne faut pas la laisser passer. On ne la reverra pas.
Le côté aventureux, c'est plus important pour vous que le plan de carrière, en somme.
Ah ben, j'ai pas eu trop de plans de carrière. Non, j'ai refusé beaucoup de films, malheureusement pour moi, parce que j'aurais pu faire tout, mais j'étais un peu fantasque. Et puis aussi, je me suis un peu perdu de vue à certains moments.
À certains moments. Le mot underground, ça vous convient ou...
ouais. Ben, pendant un bon moment, oui, mais j'ai pas fait que ça. Je n'ai pas été qu'underground. J'ai aussi travaillé avec beaucoup de cinéastes et de metteurs en scène de théâtre, des gens très pointus, quoi.
Enfin, résultat, aujourd'hui, il y a une rétrospective qui va commencer à la Cinémathèque. Ça fait de vous aussi une espèce de notable, maintenant.
Bah, écoutez, notable, je sais pas. Vous savez, moi qui j'ai appris le cinéma à la Cinémathèque, justement. Et j'avais un ami qui allait beaucoup à la Cinémathèque. J'y comprenais pas grand-chose à ce que je voyais. Mais j'ai reçu toutes ces images, tous ces grands metteurs en scène, Eisenstein, Orson Welles, Buñuel.
Les Français aussi, René, Carnet, Prévert, vous les citez.
Voilà, oui, oui. Tous des gens formidables, et on prend toutes ces images comme ça dans la tronche. Il y avait aussi les cinémas d'art et d'essai, hein, d'art et de décès, comme disait Bernadette Lafont.
Donc pour vous, ça a un sens intime, j'ai envie de dire, de vous retrouver dans cette cinémathèque.
Même bah si oui, c'est pas si vous endroit. Voulez, c'est une grande récompense pour moi, parce que c'est une reconnaissance et d'un endroit qui m'a fabriqué finalement quand même quelque part.
Alors on va reparler de tout ça, évidemment, Jean-Pierre Calfon, mais on va commencer, si vous voulez bien, par remonter en zigzag jusqu'à vos...
Zigzagons.
À vos toutes jeunes années, avec par exemple, vous allez peut-être être un peu surpris, mais enfin moi j'ai choisi pour commencer cette chanson.
Musique, offrez-vous de temps en temps un petit air de jazz et pas tambour battant. Vous verrez qu'au même instant, par un phénomène physique, l'air se glisse en percutant dans la trompe de stache et pas tambour battant. Vous avez le corps en mouvement.
Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Moi qui n'aimais que l'opéra.
Me voilà dansant du jazz, dans le quartier j'ai peur qu'on jase.
Mais donc là, c'est magnifique, de penser qu'au même instant, les milliers de tympans font fort d'un bon battant et que tout le monde est content.
Vous messieurs les fonctionnaires qui vous surmenez par trop, demandez au ministère un pick-up ou la radio.
Vous travaillerez en musique, c'est tellement plus excitant. Un petit air de jazz et pas dans vos battants, vous verrez c'est épatant. Car aussitôt c'est physique, l'air se glisse en percutant. Dans la trompe de stache et pas dans vos battants, vous avez le corps en mouvement.
Oh là là, qu'est-ce que c'est Texas. Le percepteur danse la samba. Il est tellement rigolo qu'on se bat pour payer les impôts.
Quel résultat magnifique, tout ça parce qu'au même instant, des milliers de tapants font front aux combattants et que tout le monde est content.
Nos élus se creusent la tête, mais à la chambre un beau jour, un joyeux solo de trompette remplacera les...
Travailleront en musique, ce sera bien plus amusant.
Un petit air de jazz et pantomime au battant, on verra remonter le franc.
Tous les partis politiques oublieront leurs différends.
Un petit air de jazz et pantomime au battant, ils auront le cœur en mouvement.
Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, ce beau pays qui chante là-bas?
C'est la France, il le sait bien qu'elle a souvent montré le chemin.
En avant, c'est magnifique, le français au même instant.
Des millions de tympans font pantomime au battant
et que tout le monde est content.
Tambour battant 1952, le grand orchestre de Jacques Hélian. J'ai pas eu besoin de vous dire ce que c'était, Jean-Pierre Calfon, vous avez tout de suite reconnu.
Bah oui, parce que quand j'étais gosse, j'entendais ça et je me souviens même encore des paroles de cette chanson. Il y avait un film. C'est tiré d'un film. Et donc, j'ai été le voir, bien sûr. J'aimais beaucoup ces grands orchestres français qui s'inspiraient, qui marchaient dans les traces des grands orchestres américains, de Count Basie, Duke Ellington, et de Ray Ventura, et tout ça. Et il y avait des grands instrumentistes là-dedans. Il y a le trompettiste Roy Eldridge, comme on parlait tout à l'heure de Christian Garros, un très grand batteur qui a joué avec beaucoup de...
Avec Jacques Hélian, donc là, peut-être dans ce titre, d'ailleurs.
Oui, dans ce titre, et puis avec beaucoup d'orchestre américain aussi, vous voyez, des trios, Jack Dieval à l'époque.
Bien sûr. Alors ça, c'était votre, on peut dire, votre éducation musicale de petit parigot, parce que vous êtes vraiment un parigot, on peut dire.
Oui. Et puis c'est là, c'est aussi à la radio que j'ai découvert Presley, vous voyez, tout ça, le blues, le boogie.
Dans une famille où il y avait, vous avez dit, à peu près 5 disques et un phono, hein, simplement, des vieilles cires, mais vos parents n'écoutaient pas de musique.
Des vieilles cires de tango de mon père, tout ça. Mais bon, il y avait... pas grand chose. C'est la radio qui m'a formé aussi, vous voyez ce que je veux dire. J'allais chercher toutes les émissions de jazz de Hugues Panassier.
Bien sûr.
De Franck Thénault, Daniel Filipacchi. Dès que j'arrivais à choper un créneau, parce que je sortais un peu dans les caps de Saint-Michel, Saint-Germain-des-Prés, ça me foutait un peu la trouille, j'étais trop gosse pour ça.
Mais vous vous êtes émancipé très, très tôt, on peut dire. Vous avez parlé de votre fugue, mais c'est vrai, vos parents ont été des parents de milieu populaire qui vous aimaient beaucoup, mais vous aviez besoin de casser quelque chose, enfin, dans ce...
C'est-à-dire qu'il voulait que je fasse avocat ou médecin, et j'arrivais pas à suivre les études, j'étais très dissipé, c'était n'importe quoi, j'avais beaucoup de copains qui m'embarquaient à droite à gauche, qu'on me faisait lire Baudelaire, Blaise Sambard, tout ça, ça me faisait rêver, vous voyez ce que je veux dire. Mon père était comptable quand j'étais gosse dans une entreprise, ma mère était sténodactylo à l'EDF, vous voyez, ce sont des petites gens, donc ils veulent que le fils il aille un peu plus haut qu'eux, donc, artiste, ça leur semblait impossible, vous voyez ce que je veux dire. Et comme ils avaient aucune connexion avec ce monde-là, ils pensaient pas qu'ils pouvaient m'aider là-dedans, mais ils pouvaient pas m'aider dans des études non plus, ils en avaient pas fait. Ils avaient le certificat d'études. Donc, moi, quand je faisais du latin, tout ça, mais ils pouvaient pas m'aider, on pouvait pas m'aider. Donc, voilà.
Et donc, finalement, très jeune, vous êtes parti, vous êtes retrouvé à Bruxelles avec une bande d'alcooliques. À 14 ans, hein.
15 ans.
15 ans,
15 ans et quelques. Oui. Je sortais chez mes parents où ils buvaient de l'eau. Et d'un seul coup, je me retrouve en Belgique où il y a de la bière des trappistes. Vous voyez ce que je veux dire? Des trucs terribles, les bières des moines, là, des trucs qui cassent comme ça. Et tous les jours, dans les boîtes, à sortir. Je sais pas comment on se débrouillait pour avoir de l'argent. D'ailleurs, j'en sais rien, je m'en rappelle pas. En tous les cas, on se débrouillait.
Et tout ça a fini en prison, retour en France. Vos parents, assez compréhensifs d'ailleurs, vous ont poussé à ce moment-là quand même vers une école d'art, l'école de Penningen.
Pendant tout un moment, parce que j'ai été en centre de délinquants aussi, et avant de sortir, J'avais dit à mes parents, si c'est pour retourner chez vous et pas faire ce que je veux, je préfère rester là, avec les délinquants dans cette maison. Alors ils ont dit, bon, tu pourras faire ce que tu veux. Et alors j'ai recommencé à fuguer un peu à droite à gauche, mais là c'était plus des fugues, c'était admis. Si vous voilà. Et puis au bout d'un moment, en effet, mon père m'a dit, il faudrait peut-être essayer de faire quelque chose. Alors je sais pas, j'ai soulevé des gens à droite à gauche comme ça, et ça m'a amené dans une école de dessin. C'est eux qui m'ont amené.
Qui existe toujours d'ailleurs, qui est fort réputé. Hein.
Et ils sont, oui, c'était une très grande école, maître de Penningen et Jacques Dandon, qui doivent être disparus maintenant, mais c'est des gens extraordinaires. Oui.
Voilà. Alors vous n'avez pas non plus été un étudiant extrêmement assidu, mais quand même vous êtes entré un petit peu déjà dans un monde artistique de ce côté-là.
Bah oui, et puis surtout qu'ils nous faisaient entendre de la grande musique, ils nous emmenaient faire de la peinture, des trucs. Bon, j'ai pas réussi à faire de la peinture, mais j'étais très bon en dessin et j'ai gagné un concours même, voilà, d'affiche.
Et donc, à cette époque-là, bien évidemment, comme beaucoup d'adolescents de votre âge, vous écoutiez, vous l'avez dit déjà, Elvis Presley.
Ah, ouais. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so, be just so lonely, baby. Be just so lonely. You're so lonely, they could die. Man, the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, well, you'll be just so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die.
Heartbreak Hotel, c'était bien sûr Elvis Presley en 1956, un choix
le roi
de Jean-Pierre Calfon, le roi, il a tout inventé.
Ah, il a tout inventé dans une nouvelle façon de chanter, quoi. Cette espèce de pression qu'il met dans sa voix, c'est ok, c'est cette vitalité extraordinaire. On a fini par ne plus filmer que son visage à la télé parce qu'il bougeait beaucoup le corps. Alors ça gênait les prudes américains. Mais n'empêche que quand vous le regardez maintenant, vous voyez que c'est juste un jeune homme qui s'éclate et qui vit et qui vibre et qui crée. Et qui crée sur place avec son corps, qui invente sans arrêt, il invente. C'est lui qui a inventé de danser avec ses mocassins sur la pointe des pieds, ce qu'a repris Michael Jackson par exemple. Mais c'est lui qui a inventé.
Dans votre livre de souvenirs, Jean-Pierre Calfon, d'ailleurs, il y a tout un passage où vous indignez un peu, enfin, le livre est plein d'humour, hein, vous n'êtes pas de l'indignation très, très grave, mais de la façon dont on représente les rockers au cinéma, souvent, justement...
Oui, en France, oui.
Oui, en France,
en
oui.
France, oui. Bah oui, parce que souvent, on vous dit, c'est un rocker sur le déclin. Ben oui, mais ils n'ont pas connu les rockers en pleine forme, alors tout de suite, ils veulent parler de choses négatives comme ça. Ça me plaisait pas. Donc moi j'ai essayé
de... Vous avez joué pas mal de rockers, hein.
Oui, j'ai essayé de faire que...
Notamment dans Les Bétons, par exemple.
Dans Les Bétons, dans Rue Barbare, dans L'Amour ou Presque aussi. Et puis dans Les Idoles, bien sûr.
Et vous avez essayé toujours d'en profiter pour chanter et pour montrer justement aussi un rocker en train de...
Un rocker en forme.
En forme, ouais.
Parce qu'on peut montrer, par exemple, dans Les Bétons, Le gosse, il était admiratif de son père, mais son père, il était en tôle. Alors j'ai dit au metteur en scène, écoute, ce qui serait bien, c'est de faire un petit scopitone, c'est-à-dire les genre des clips de l'époque, comme ça, ouais, un petit scopitone, ouais. Où il chante une chanson, et il a cet idéal, c'est d'avoir vu son père, et là, il a une bonne raison de le porter au nu, si c'est un bon chanteur. Si c'est juste un tôlard, c'est quand même un petit peu dommage, quoi.
Il faut dire, Jean-Pierre Calfon, que alors vous, vos débuts sur scène, ça n'a pas été comme rocker, mais ça a été comme boy aux Folies Bergères.
Entre autres, oui. Entre j'avais autres. Commencé avant à jouer de théâtre amateur un peu en banlieue, comme ça. Mais c'est vrai que...
Vous avez travaillé la danse avec un ami. Hein,
oui, aussi, vraiment... oui, pendant 2 ans de la danse moderne, avec Jean Séry, qui était un ancien danseur de l'opéra, qui avait souffert à l'opéra et qui avait créé une méthode de danse moderne où il mélangeait le classique, le jazz, le rock, le moderne, quoi. Et après, c'est ma carrière de danseur que j'avais pas l'intention de faire, non plus. Elle s'est terminée aux Folies Bergères, en effet, où j'ai travaillé pendant 5 mois. C'était mes premiers vrais sous, quoi.
Mais je connaissais même pas le nom de la meneuse de revue, d'ailleurs, que vous citez.
Yvonne
là.
Ménard.
Yvonne Ménard, voilà, c'est ça.
Je peux même encore vous chanter le début d'une chanson.
Vas-y.
Paris, Paris s'amuse, et zim badaboum, et zim badaboum, Paris fait des folies, partout la gaieté fuse, et les femmes, les petites femmes sont jolies.
Ah, là, bien, ça, c'était Yvonne Ménard qui chantait ça.
Non, c'est nous.
À vous, le chœur.
Les chœurs, bien sûr. On chantait tous ça, c'est la chanson du début de la revue.
Ouais,
la revue Folie Légère, ça s'appelait.
Folie Légère.
Toujours 13 lettres dans les titres des revues. Vous voyez ce que je veux dire? Folie Légère, il y a 13 lettres.
Ah, ben alors, ouais, on toujours. L'apprenait. Hein,
voilà. Il faisait toujours ça. Non, mais parce que j'y travaillais là, je connaissais les bases de l'histoire, quoi.
Et donc, dans ces années-là, voilà, vous avez essayé plein de choses, notamment dans le milieu du théâtre, mais voilà, sans véritable plan, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une aventure après l'autre. Et puis, finalement, à force de faire des petits rôles et des figurations pas payées, vous avez finalement décidé de monter vous-même votre propre spectacle. Et c'était un peu le tournant de votre vie, quand même. Ouais.
C'était, en tous les cas, une belle aventure, parce que j'ai dû faire moi-même l'adaptation, alors que j'étais pas très vraiment capable. Je pouvais pas avoir l'adaptation de la pièce « Dommage qu'elle soit une putain ».« This bitch is a whore » de John Ford, un contemporain de Shakespeare, pas le John Ford du cinéma. Bon, ben, j'ai réussi. J'ai dit, bon, ben, je peux pas avoir le truc. Eh ben, très bien, je vais me débrouiller moi-même. J'ai pris la collection bilingue, un côté en anglais, l'autre côté en français, la traduction du monsieur dont je pouvais pas avoir le truc, et j'ai fait moi-même un texte. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai pris des élèves du cours du Lin, où grâce aux Folies Bergères, j'avais réussi à prendre quelques cours, quand même, avec Jean Villard, Alain Cuny, George Wilson, Jean-Pierre Darras, ben, des pointures, quoi. Et j'ai été au Centre américain, la salle n'était pas libre pour que je puisse monter le spectacle, j'ai réussi à obtenir force de la jeunesse, de conviction de la jeunesse, j'ai obtenu les jardins. Et j'ai tout fait dans les jardins avec mes acteurs. 15 personnes qui m'ont suivi, vous voyez, plus un costumier dont j'avais porté les costumes dans Othello l'année d'avant, c'est à peu près à la même époque, en Italie, la pièce, les deux pièces. Donc il m'a retaillé tous les costumes pour mes amis, j'avais
ça
des super costumes. Dommage qu'elle soit une putain. Oui.
Et vous aviez quel âge?
J'avais quel âge? J'avais 20 ans.
20 ans, voilà. Et c'est comme ça que vous entrez dans ce métier. Vous avez fait tant de choses. Et puis, pas longtemps après, alors, Jean-Pierre Calfon, puisqu'on est sur France Musique, il faut le dire, pas longtemps après, vous avez enregistré un premier 45 tours. Et alors, il faut dire qu'en l'écoutant, ce 45 tours, j'étais surpris. Ça date de 1965. Et on peut dire que c'est avec 10 ans d'avance, la musique punk par la voix de Jean-Pierre Calfon.
Je crois, oui.
Le torchon brûle entre Tony et les margarettes. Rien ne va plus entre Philippe et Elisabeth. C'est bête! Dieu que c'est bête! Cette fois ça y est, Jacques se remarie. Mireille Mathieu veut se tuer pour Adamo. Vive la vie! Vive la vie! Brigitte n'en fait qu'à sa guise. Devant Fernand
le capin se défrise. Antoine se plaint de tout ce qui lui nuise. Et Joséphine Baker a les cheveux qui frisent. Pour escaper de Verdun, Yvonne a fait la bise. Pour les bénir, l'évêque avait sa plus belle mise.
Chanson hebdomadaire 1965, Jean-Pierre Calfon. Ah oui, il y a vraiment l'espèce de simplicité narquoise et un peu brutale de la musique punk que vous avez inventée en quelque sorte.
Bah, quelque part, oui. Avant, j'ai appris ça aux Anglais. Les Anglais m'ont copié, les Américains aussi. Ça. Mais voilà ce qu'il y a.
Vous le dites souvent dans votre livre, mais avec humour.
Oui. Ce qu'il y a de sympathique, c'est qu'il y a des jeunes gens du côté de Toulouse qui viennent de monter un label, qui vont ressortir ces quatre titres à l'identique, avec la même pochette et tout. Ils ont remasterisé l'histoire, le son va être super, encore mieux que celui-là. Et donc, c'est quand même ce disque qui était un peu passé à l'as, parce qu'à l'époque...
Ah, il est recherché par les collectionneurs maintenant, il paraît.
Oui.
300 euros.
Oui.
Hein, pour un 45 tours.
Oui, c'est pas mal. Mais il va y avoir donc cette réédition. Et c'est ce disque qui était passé à l'as à l'époque, parce que c'était un peu trop... Pour la France, c'était un petit peu trop violent, quoi. Mmh. Quand même, un petit peu dans le showbiz, ça marchait pas, quoi. Eh ben, il va peut-être avoir une autre chance.
Mais quand on regarde de plus près ce disque, le disque s'appelle My Friend, mon ami, qui est la première chanson. Ce 45 tours de 1965, vous êtes quand même drôlement bien entouré, parce que l'arrangeur, c'est Yvan Julien, qui était un des plus grands arrangeurs aujourd'hui disparu, et Michel Portal, qui est chef d'orchestre là,
ouais,
curieusement.
Ouais.
Eddie
Louis au...
Eddie Louis à l'orgue.
Francis Darescuren à la basse.
Il y a pire pour commencer, ça.
Ah, tout à fait. Mais bon, ça, c'est la maison de disques qui m'a... c'est Françoise Lowe, à l'époque, qui m'avait vu dans Les Idoles, qui m'a demandé pour faire un 45 tours. Donc, j'ai écrit les paroles de la chanson hebdomadaire. Marco a fait My Friend, mon ami. Une chanson de mon ami de l'époque, Valérie Lagrange. Et puis, une chanson d'un texte de Victor Hugo, La Guerre.
Voilà. Et alors, ce disque, vous l'avez dit, il fait suite à un spectacle qui lui-même a été adapté aussi au cinéma, qui s'appelle Les Idoles.
Mmh, et qui va passer à la rétrospective le 11.
À la Cinémathèque. Mmh. Alors, un film vraiment très important dans votre carrière, un film, là on peut dire encore, excusez-moi pour les mots anglais, mais enfin, c'est underground, de ces années 60, 68 précisément.
Bah, underground pourquoi? Parce qu'il est sorti en 68 pendant la rébellion, disons, parce que la révolution, c'est pas ça, une révolution, c'est dans le sang.
Oui, vous inversez la phrase de Louis XVI, enfin, qu'on porte à Louis XVI, vous dites, non, sire, ça n'est pas une révolution, c'est une révolte, vous expliquez ça dans votre livre.
Oui. Et si vous voulez, le film est sorti à ce moment-là, donc les gens, ils avaient autre chose à faire qu'aller au cinéma. Il fallait déterrer des pavés. C'était quand même un autre boulot. Hein.
Mais le film fait donc suite à cette pièce que vous aviez montée, alors on peut dire, avec ce qui a été un peu une bande qu'on associe beaucoup à vous-même, puisque c'était sous l'égide d'un personnage, vous allez nous en dire un mot, qui s'appelle Marc O, qui est d'ailleurs toujours parmi nous, avec Pierre Clémenti, qui était votre grand ami de l'époque, et Bulogier, là, il y a eu une espèce de bande, oui, on peut le dire.
Oui, avec Philippe Bruneau, Michel Moretti, Joël Barbout, Marie-Claude Breton. Et puis, dans le film, après, sont arrivés Bernadette Lafont, Daniel Pomerol, Francis Giraud, Henri Chapier.
Mais toute cette petite bande s'est formée, en quelque sorte, autour de Marc O.
Ah oui, absolument.
Voilà, qui lui-même est quelqu'un qui avait travaillé avec Boris Vian, qui a plus de 90 ans aujourd'hui, mais qui avait monté une espèce d'école de théâtre, d'atelier de théâtre.
Il avait beaucoup travaillé avec les lettristes aussi, Isidore Isou. Vous voyez, et il a en effet créé une espèce de forme théâtrale totalement non psychologique et où le verbe lui-même vous porte dans les mouvements du corps. C'est-à-dire que c'est presque, hein, je dis bien presque, c'est presque une chorégraphie du langage, voilà.
Voilà, c'est ça. Et donc c'est cette école qui vous a rapproché, enfin cette école de pas au sens scolaire, mais c'est cette façon de travailler avec vos amis de l'époque. Et on en a quelques enregistrements, notamment cette plage dans Les Idoles, justement le film où vous chantez avec Pierre Clémenti et Bulogier.
Oui.
C'est le 14 juillet que nous nous sommes rencontrés. Il n'y avait que la musique des souliers cloutés qui frappait le pavé de l'opaca dansé. Et nous nous embrassions, nous nous adorions, l'amour nous fait.
explosion. Du coup les soldats ont jeté leurs fusils en France. Ils sont entrés pour danser le Waikiki. Et puis ils ont arraché leurs médaillons. Les a tout mangé, c'était un vrai régal.
Portez mon smoking, mes souliers vernis. Pour danser le jerkies, danser le Waikiki. Nous frappions le plancher de nos pas compliqués. Avec toi, j'ai flirté. Charlie soudain lassé nous a lâché tous les deux. Nous avons continué à danser. Dans Paris, nous avons vagabondé. Nous avons fait tous les bals se furent.
Les Idoles, un extrait du film de 1968 avec ici les voix donc de Jean-Pierre Calfon, Pierre Clémenti et Bulogier. Bon, on distingue pas très bien entre Pierre Clémenti et vous. Il chantait bien, Clémenti ?
Très bien, très bien, très, ouais. Très bien. Il avait beaucoup d'énergie, beaucoup de rébellion en lui. Il avait été à Savigny-sur-Orge, le même centre de délinquants que moi. Et je tiens quand même à dire que la musique a été faite par Patrick Rosset et Stéphane Villard. Stéphane Villard, le fils de Jean Villard.
Le fils de Jean Villard, voilà.
Et avec Didier Léon au guitare. Et Didier Malherbe au sax, le bassiste Jacques Zins. Voilà.
Alors, quant à Pierre Clémenti, on peut dire, on vous a beaucoup associé comme deux frères dans
oui,
le monde artistique.
Hein. C'était mon petit frère, il y a 4 ans de différence avec moi. Ouais. Et c'est la première fois qu'il est monté sur une scène, c'est avec moi, dans mon procès aux Templiers. Parce que après la première pièce que j'ai montée, quelqu'un est venu avec sa pièce, Jean-Claude Héger, qui s'appelait Procès aux Templiers, la pièce. Et j'ai eu besoin encore d'acteurs, donc j'ai eu besoin d'un jeune et bel acteur pour faire des Templiers le plus jeune et le plus beau. Et je suis tombé sur Pierre, j'aurais pu tomber pire. Hein.
Voilà. Et vous-même, dans ces mêmes années, donc vous avez fait vraiment des débuts, alors plus que remarqués quand même, au cinéma, puisque parmi les premiers cinéastes avec lesquels vous avez tourné, il y a eu Claude Lelouch, Jean-Luc Godard, Romain Gary. C'était quand même pas
Rivette,
mal.
Rivette, etc. Et même Benazir Aff, le film que j'ai fait avec lui, c'était très beau parce que il y avait comme chef opérateur Edmond Richard qui avait fait le film Le Procès de Orson Welles. La musique était de Chet Baker, oui.
Le premier film, peut-être, en tout cas, celui qui a vraiment lancé les choses, c'était Une fille et des fusils de Lelouch.
Oui, hein, oui. Voilà. Il va venir d'ailleurs le présenter
lui-même à la Cinémathèque, avec vous. C'est bien, vous vous retrouvez, parce que votre histoire avec Lelouch a été faite de séparation et de retrouvailles.
Un peu chaotique. Mais en tous les cas, ça m'a fait plaisir qu'il ait accepté de venir. Puisqu'on m'a annoncé qu'il venait, je ne savais pas, c'est pas moi qui lui ai demandé.
Voilà, et puis il y a Week-end de Godard, évidemment, qui est aussi un grand moment, j'imagine, pour vous avoir fait remarquer dans tout le monde du cinéma.
Mais oui, on devait faire un autre film avec Jean-Luc après, où il voulait faire une adaptation du journal d'un séducteur de Kierkegaard. Et puis on a commencé à travailler dessus, et puis est arrivé mai 68 et il est parti dans la politique. Voilà, et on n'a jamais fait ce film. C'était avec sa femme, Anne Wasiemski, la femme de l'époque. On aurait dû faire ce film-là ensemble, on ne l'a pas fait. C'est dommage, je le regrette. J'en suis vert de rage.
Il faut dire aussi que le petit jeune homme que vous étiez avait des protecteurs ou des protectrices même, puisque j'ai découvert dans ce livre que la femme de Michel Gallimard, ce membre de la famille Gallimard, mort
oui,
dans l'accident de voiture
il était mort. Hein,
absolument. Mort avec Albert Camus.
Oui, elle ne l'a pas trompé avec moi.
Non, mais après, elle vous a un peu fait découvrir aussi le monde littéraire.
Beaucoup.
Beaucoup, oui.
Ouais, bah oui, parce que Gallimard, c'est quand même la littérature. Ouais. Et elle m'a beaucoup guidé pour la littérature, pour découvrir des auteurs, des pièces de théâtre, des choses. Moi qui n'avais pas vraiment de formation, je suis tombé chez quelqu'un qui pouvait me guider un peu. Ouais. Mais enfin, notre histoire était quand même une histoire d'amour, donc je peux pas dire.
Enfin, je sais pas si c'est elle qui vous l'a présenté, mais en tout cas, vous étiez d'une arrogance avec Romain Gary quand il vous a engagé pour jouer un rôle dans son film.
Ouais. Ben, elle m'avait présenté, il avait refusé de me. Après, il avait refusé.
Vous lui en vouliez, parce qu'il avait refusé.
Il m'avait refusé de me donner à monter sa pièce Johnny Cœur, parce qu'il avait pas eu confiance, il me trouvait trop jeune.
Vous étiez tout jeune, tout débutant.
Oui, et alors il l'a donné à François Perrier, et ils se sont étalés.
Ah, voilà. Oui, et après, quand il vous a engagé pour un film, vous l'avez fait sentir qu'il ne s'était pas bien comporté.
Ben, j'étais pas content après lui, ouais. Puis, vous savez, quand on est jeune, on est revendicatif, une tête de veau, quoi, même, j'étais, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tête en bois, vraiment.
Donc, il vous demande de vous faire pousser la barbe.
La moustache.
La moustache. Et vous arrivez sur le tournage sans rien.
Imberbe.
Voilà, ouais. Avec que des trucs comme ça.
Des trucs comme ça. Mais en même temps, il m'a fait un rôle extraordinaire. Le film, on l'a retrouvé. Il avait disparu complètement, lui aussi, ce film-là. Et on l'a retrouvé. Il y a quelqu'un qui avait acheté le film en pellicule. On va le repasser en pellicule. Alors qu'il l'a fait masteriser, il a fait un très beau DVD qu'il m'a donné, mais j'ai pas voulu le regarder. Je préfère le regarder en salle sur un vrai écran, parce que c'est un très grand chef opérateur aussi, Christian Matras, qui a fait les images. Donc voilà, je préfère le voir sur un grand écran. Moi, je suis un enfant du cinéma, quand même, pas de la télé.
Et puis, donc, côté musique encore, même si elle a aussi fait une carrière au cinéma et au théâtre, bah, vous étiez donc, dans ces années-là, avec Valérie Lagrange.
Oui, tout à fait. Voilà. C'était à plus tard. Hein. C'est pas en même temps que Jeannine Gallimard. Il ne faut pas tout mélanger.
Bien sûr. Non, mais enfin, peu après.
Peu après, oui. Peu après, je suis tombé sur une sirène.
Hein. Une sirène. Vous avez même fait quelques enregistrements ensemble.
Oui, on a enregistré une très belle chanson, la chanson de Tessa.
Tiens,
de...
On pourrait en écouter un bout, justement.
Bien sûr, oui. Hein.
Si je meurs, les oiseaux se tairont qu'un soir. Si je meurs pour une autre, un jour tu m'oublieras. De nouveau la joie de vivre, alors lavera ton regard. La montagne illuminée sur ma tombe t'offrir mille fleurs, la beauté revivra sans moi, mon seul amour. Si je meurs, les oiseaux se tairont qu'un soir. Si je meurs pour une autre, je te m'oublieras. De nouveau la joie de vivre ne lavera ton regard.
Je précise pour les auditeurs cultivés qui auront reconnu que c'est une chanson en fait sur des paroles de Jean Giraudoux et la musique de Maurice Jaubert tirée de Ondine, la chanson de Tessa, donc avait déjà été enregistrée auparavant par sans doute
Louis
Jouvet, de la création.
C'est Louis Jouvet, voilà. Et Madeleine Auzeray, je crois, qui chantaient ça dans la pièce. Oui.
Et alors là, vous avez eu une idée, donc parce qu'à la fin, en fait, il y a un premier couplet où vous êtes.
Il y a une intro dite par l'homme. Après, il y a un premier couplet dit et chanté par l'homme, deuxième couplet par la femme. Et moi, j'ai eu l'idée de rajouter un troisième couplet où moi je chante mon texte et elle chante le sien. Ce qui fait que ça fait cette espèce de truc bizarre entre les mots qui se bouffent les uns les autres comme ça, qui est un entrelac. Voilà.
J'aime bien ça chez vous, Jean-Pierre Calfon, c'est que vous êtes au fond. On a l'impression que vous êtes un créateur. Autant qu'un interprète, si je veux dire. Vous êtes tout le temps dans votre vie en train aussi d'écrire, d'imaginer des spectacles, etc. Et pas seulement, voilà, de jouer des rôles.
Vous savez, tant qu'on peut faire quelque chose et qu'on en a des idées, on essaie de les faire vivre, de vivre avec et d'en faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas la peine de pédaler dans la semoule. Il faut avancer.
En tout cas, vous dites aussi, alors dans ce livre, il faut préciser, de souvenirs qui s'appellent « Tout va bien, ment ». qui est un peu adressé à vos parents. Votre mère étant morte quand vous étiez encore assez jeune, hein, vous aviez
25 ans. Ça, oui.
Vous leur racontez votre vie qui n'a pas commencé d'une de la façon la plus extraordinaire, peut-être à leurs yeux, mais vous montrez aussi tout ce que vous avez fait. Et en même temps, vous dites que c'est justement cette mort prématurée de votre mère qui peut-être vous a empêché de vous donner complètement à votre métier d'acteur, de théâtre et de cinéma, qui aurait pu apporter de plus grands succès encore.
Ça m'a éviter d'être carriériste, si vous voulez. Ouais. C'est-à-dire que moi, c'est...
J'ai voulu, pour vos parents.
J'ai voulu bosser et réussir. Et quand j'ai commencé à réussir, j'aurais pu enchaîner les films les uns derrière les autres. On m'en proposait beaucoup. Mais je me suis lancé dans la musique. J'ai fait d'autres choses. J'ai eu mes histoires d'amour, mes trucs. Tout ça m'a beaucoup occupé. Puis il y a eu les substances qui nous sont tombées sur la tronche. Bref. Mais ma mère étant morte, le rêve que j'avais quand j'étais jeune, c'était de réparer le mal que j'ai fait en me barrant de chez moi. Parce que ça l'a complètement secoué. Ça les a tués, mes parents, quelque part, moralement. Je voulais me rattraper. Elle aurait bien aimé avoir une petite maison en Provence près de la mer. Ben, j'ai pas pu lui offrir ça. Donc, pour moi, c'était plus la peine de gagner de l'argent. Oui, ça servait à rien. Il suffisait de vivre de mon métier, de vivre de mes passions, de bouger, de vivre, plus que de réussir, vous voyez ce que je veux dire, à être une star, surtout maintenant. Qu'est-ce que c'est que les stars, quand on voit que les stars, c'est les Kardashians, vous voyez ce que je veux dire, ça va pas loin. Hein.
Mais votre père, lui, est resté là, comme un homme assez discret, mais quand même qui a suivi, lui, les progrès de votre carrière et de vos succès.
Oui, mais comme je suis aussi tombé dans pas mal de pièges, la défonce et tous les trucs comme ça, pour lui, ça a dû être encore une grande douleur, vous voyez ce que je veux dire? Non seulement j'ai fugué, mais après j'ai fait n'importe quoi.
Parce qu'au moment où vous commenciez à devenir célèbre, il faut dire que vous y êtes allé assez fort dans les consommations diverses. Hein.
Ben oui, voilà, c'est comme ça, je suis excessif, je fais pas les choses à métier, quand je me lance dans un truc, j'y vais.
Oui, ben...
Je paye de ma personne.
Il y en a pas mal qui sont restés sur le bord du chemin et vous êtes là aujourd'hui.
Je suis
80,
là. Merci
80
à mes parents. Merci à mes parents de m'avoir donné une bonne constitution, vous voyez, parce que c'est ça. Et une bonne tête, qui réfléchit, qui fait beaucoup de bêtises, mais qui essaie de les rattraper après. Alors, j'aurais pu ne pas avoir la chance de les rattraper, j'aurais pu mourir parce que j'ai vraiment fait des grosses...
Vous avez tout essayé, hein, y compris les choses les plus fortes.
Les plus pourries, ouais. J'ai perdu beaucoup de temps là-dedans, ouais. Mais enfin bon, c'est comme ça, c'est une vie, elle a été remplie de tout ça. Et je veux dire, je peux pas regretter parce que j'ai vécu des moments extraordinaires, j'ai vécu des choses épouvantables aussi. Voilà, comme tout le monde, je pense, dans la vie, on passe par des hauts et des bas. Voilà.
Par exemple, sur ce chemin-là, vous avez rencontré des gens comme Bob Marley.
Bob Marley, les New York Dolls à New York.
Donc vous êtes devenus amis, les New York Dolls, autre précurseur des punks d'ailleurs, mais après Jean-Pierre Calfon, chronologiquement.
On s'est reconnus presque quelque part, vous voyez ce que je veux dire, il y avait quelque chose.
Bob Marley.
Et Bob Marley, oui, j'avais travaillé au Brésil sur le film de Jean-Daniel Paulet. J'ai rencontré un Américain qui a joué un peu dans ce film aussi. Et on est devenus copains, on a fait de la musique ensemble. Et puis après, je suis reparti à Paris, lui, il est reparti à New York. Et puis, quelques temps après, il m'a appelé pour venir écrire un scénario pour tourner au Chili. C'est des drôles d'idées, bon bref. Il nous a envoyé des billets d'avion, je suis parti avec un copain là-bas. On n'a jamais écrit rien du tout pour le Chili. Mais il m'a fait rencontrer un petit jeune homme, comme ça, un soir où on a été des jeunes. Lui s'occupait de Bob Marley, en effet, qui sortait son album Catch a Fire aux États-Unis. Et il était là pour de la promo. Donc on a dîné avec lui, et puis après, cet Américain nous a dit, je connais un petit studio à côté, dans Prince Street, ou Spring Street, je ne me rappelle plus lequel, et de Blue Rock Studio, on peut y aller si vous voulez. Et alors hop, on est parti, bien sûr qu'on veut. Et Bob Marley a joué de la guitare, moi j'ai pris la basse, parce que c'est pas loin de la guitare, il y a 4 cordes, il y en a déjà moins. Et l'autre a joué des percussions et de l'harmonica, et on a improvisé toute la nuit avec beaucoup de substances, vous voyez, d'herbes et de trucs comme ça, c'est qu'il a toute la nuit avec Bob Marley, voilà. Puis après, je l'ai jamais revu.
Alors, en tout cas, votre amour de la musique m'a donné envie aussi de faire entendre ce morceau que j'avais jamais passé dans l'émission, et ça c'est vraiment formidable. Je connaissais pas bien, je connaissais B.B. King, mais je connaissais pas tellement Albert King.
Albert King, merveilleux, oui. Hein, merveille, hein.
Ça fait partie de vos...
Mes dieux, bah, les kings, de mes kings.
Les trois kings.
Il y a trois kings, Albert, Bibi, Freddy,
et Freddy
et le king Elvis.
Ah
et
voilà, quatre. Les quatre kings.
If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. Hard luck and trouble been my only friend. I've been on my own ever since I was 10. Born on a bad side, been down since I began to call. If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. I can't read, I didn't learn how to write. My whole life has been one big fight. Born on the bad side, I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I said I wouldn't have no luck at all. That ain't no lie. You know, if it wasn't for bad luck, I wouldn't have no kind of luck. If it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. You know, wine and women is all I crave. A big leg woman gonna carry me to my grave. Born on the bad side, I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I tell you I wouldn't have no luck at all. Yeah, I'm a bad luck boy. Been having bad luck all of my days, yeah.
Né sous un mauvais signe, c'est le nom de cette chanson d'Albert King en mai 1967. Vraiment belle musique, merci Jean-Michel.
Magnifique, magnifique. Un magnifique gaucher.
Un magnifique gaucher. Vous-même, donc, vous le disiez, bon, il y a eu une certaine dérive donc, dans votre vie dans les années 70, on peut dire. Hein,
oui, tout à fait, tout à fait. Et... Ça a commencé dans les années 60, hein, d'ailleurs.
Ouais. Oui, mais vous étiez encore la santé, puis après, ça finissait par faire beaucoup.
Et puis après 80, puis j'ai fini par devenir sobre et impeccable.
Sobre et impeccable. Et alors, évidemment, ça a un petit peu cassé votre carrière, à tel point que ça a été le moment où on a commencé à vous proposer beaucoup de rôles de spécial guest, comme on dit en bon français.
Beaucoup, hein. Oui, beaucoup. Oui,
ça
oui.
Vous a agacé un petit peu quand même, parce que vous auriez préféré les vrais rôles.
Bah oui, mais j'ai eu des vrais rôles quand même. Sûr. J'en ai eu quand même. Hein. Mais bon, c'est vrai que mais ça, c'est de ma faute, donc je ne peux pas en vouloir au métier. Vous voyez, parce que c'est ma faute. C'est moi qui suis dissipé, voilà. Disons. Très dissipé.
Alors, spécial guest, et puis étiquette un petit peu aussi mauvais garçon dans le choix des rôles qu'on vous proposait. Bah, ce qui aussi vous semblait peut-être un peu réducteur parfois.
Bah, réducteur, mais en même temps, c'est de là que je viens.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que j'ai fugué chez mes parents, j'étais en tôle, j'ai fait des centres de délinquance. Donc, si vous voulez, j'étais pas fait au départ pour jouer le flic, quoi. Et j'étais plutôt fait pour jouer le voyou. Ouais. Et c'est ça qui m'amusait. Puis après, c'est vrai que j'aurais aimé qu'on me propose d'autres choses, mais on m'en a proposé d'autres. L'amour fou avec Rivette. L'amour fou avec Rivette, c'est pas un... Vous voyez ce que je veux dire ? Et l'amour par terre, c'est pas des rôles de voyous, quoi.
Mais ouais. Si vous deviez citer deux ou trois films que vous êtes particulièrement heureux d'avoir fait pour ce qui est de votre jeu, votre personnage, votre...
C'est trop dur ce que vous me demandez. J'ai tourné avec des gens tellement fabuleux, avec Gary, avec Rivette, justement, avec Granier de Fer, avec Lelouch. Tous ces gens m'ont fait faire des choses merveilleuses. Vous voyez ce que je veux dire? Moi qui venais de rien, j'ai été pris en main par des gens qui savaient ce qu'ils voulaient, qui ont vu quelque chose en moi que je ne voyais pas moi-même, vous voyez?
En tout cas, votre filmographie est immense. Hein.
Énorme.
Et on va
je ne me rendais pas compte. C'est quand j'ai écrit le truc. Vous savez, c'est pas moi qui... J'avais pas du tout envie de faire ma biographie. Hein. Ouais. C'est Philippe Reich qui est venu, qui m'a interviewé sur tout. Voilà. Il avait...
On sent que vous avez rajouté plein de blagues en plus.
Bah oui, enfin, c'est pas tellement des blagues que j'ai rajoutées, c'est une sorte de forme d'humour.
Un ton, oui.
Forme d'humour. Et alors, ce qui est formidable, c'est que lui, quand il a compris, Philippe Reich, quand il a compris dans quel sens j'allais, eh bien, il m'a suivi et il a inventé des trucs lui-même, dans le même sens.
Évidemment, je disais filmographie immense qu'on va redécouvrir en partie à la Cinémathèque.
En mais partie, oui, parce qu'il y a 10 films, j'en ai fait 100.
J'en ai fait 100, voilà. Mais durant toutes ces années, il y a aussi donc toujours la musique qui revient. Mmh. Et on va le voir avec encore un titre que vous avez enregistré, ça s'appelle Carmen. Mais je voudrais d'abord que vous nous disiez un mot des deux complices de cette chanson qui sont Boris Bergman, bien connu pour ses nombreuses chansons, mais aussi Paul Ives, qu'on connaît moins en France.
Paul Ives est un chanteur anglais qui a eu le malheur d'être amoureux d'une Française et qui donc n'a pas fait carrière, mais qui chantait d'une façon extraordinaire. Grand compositeur, grand chanteur. Et il a composé pas mal de musique pour moi. Et Boris Bergman, qui a écrit des textes de plusieurs chansons pour moi aussi, oui. C'était un truc assez magique aussi, vous voyez, de travailler avec des gens qui ont ce talent-là. Que ces gens m'acceptent et envie de travailler avec moi, c'est, disons, une bénédiction.
Mais votre groupe, alors, vous avez eu plusieurs groupes?
Oh, j'en ai eu beaucoup.
Beaucoup. Vous les reconstituez au fur et à mesure de chaque projet, en fait.
Oui, et puis c'est amusant, ça change de nom, quoi. On change de nom chaque fois qu'on fait quelque chose de différent. Ouais. Par exemple, il y a le premier, c'était Crouille-Marteau. Après, il y a eu Monsieur Claude, Rock Show, Black Minestrone, Les Gommettes.
Black Minestrone, c'est pas mal non plus. Et là, dans Carmen, c'est quel groupe?
Là, ben, dans Carmen, c'est Black Minestrone.
Black Minestrone, voilà, qu'on écoute tout de suite une chanson qui date des années 90.
Oui.
Car le pieux sous le lavabo, je fais briller mes consuls sur le coin du rideau. Taguer les murs de la chapelle, où sont partis prier les petites sœurs des jardelles. À l'hôtel de la gare, sur le miroir à piquer, elle a écrit salaud et peut-être même enfoiré. Mais ça, j'en suis pas sûr, jamais plus chiffrer son écriture. Carmen, 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 baisse d'attention, chute de gaine. T'es tombé devant la buvette où les Thénardier te faisaient la causette. Carmen, 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 tu me pries, je m'amène.
Carmen, une chanson de Boris Bergman et Paul Ives, chantée donc par mon invité Jean-Pierre Calfon à la Cinémathèque dans quelques jours, et puis auteur également, voici quelques mois, de Tout va bien maman, un livre de souvenirs, un livre très riche. On a évoqué pas mal d'aspects de ce livre d'ailleurs ici même au fil de notre conversation, Jean-Pierre Calfon. Il y a un sujet inattendu, tiens, c'est votre passion pour les divas.
Bah, évidemment.
Ça va de Maria Callas à Amy Winehouse, en passant par Yvonne Printemps. Vous avez,
il y a un certain type
de femmes et de chanteuses qui vous subjuguent. Voilà.
Ah bah oui, les voix de femmes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Les femmes, c'est la voix des anges, quand même, quelque part, pour moi, en tous les cas.
Ouais.
La voix des sirènes aussi, vous voyez.
Ouais.
Je suis comme Ulysse, vous voyez ce que je veux dire? Je suis attiré par ces voix qui sont de la gracieuseté, la légèreté, la force aussi. Callas, c'est aussi la force, hein. Ouais. Amy Winehouse aussi. Et en même temps, une grande fragilité de... Et ces femmes si fragiles qui d'un seul coup deviennent d'une grande force et d'une grande subtilité, c'est magique. c'est magique. Pour moi, c'est la beauté, quoi.
Les femmes, d'ailleurs, jouent un rôle important d'une façon plus générale dans le livre, hein, largement autant que le théâtre ou le cinéma.
Bah oui, oui, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. J'ai été attiré par tout ce qui est bon dans la vie.
Et donc les femmes, c'est tout ce qui est bon dans la vie.
Ah oui, aussi, ouais. Oui, ouais. C'est difficile. Attends, c'est bon, mais
il y a du bon. C'est pas toujours facile.
C'est pas facile. C'est pas facile. Je ne suis pas facile non plus, donc vous voyez, ça fait des fois, ça fait des étincelles, quoi, tout ça.
Et pour aller un peu plus du côté de la musique classique, en tout cas, quand on préparait cette émission, ou au fil des pages de votre livre, voilà, encore des noms qui m'ont presque surpris agréablement. Patricia Petitbon, par exemple.
Oui,
vous aimez, hein, ces enregistrements. Ou encore Luis Mariano, vous l'avez vu au Châtelet, vous l'avez aussi.
Oui, quand même, ma tante Guiguit m'emmenait au Châtelet quand j'avais 10-12 ans, et j'ai vu le chanteur de Mexico.
Voilà, mais vous n'avez pas rejeté ça comme un truc ridicule, parce que sous prétexte que vous aimiez le rock'n'roll.
Oh, mais ça n'a rien à voir, vous voyez ce que je veux dire. D'abord, j'étais très jeune, là, et puis j'arrive là-dedans, il y a de la musique, il y a des gens qui chantent, il y a des costumes, il y a des ballets, il y a des trucs. Quand on est gosse, on en prend plein les yeux, comme ça, et on n'est pas là pour juger, vous voyez, on reçoit. Et en plus, Luis Mariano est un grand chanteur, quand même. Il est très gracieux dans sa façon de chanter. Ce que des gens de maintenant, non, peut-être pas tous.
Mais vous avez raison. Et Yvonne Printemps?
Yvonne Printemps, bah oui, elle aussi, c'est la grâce, la légèreté, la finesse, le côté mutin, comme ça, des femmes françaises, vous voyez ce que je veux dire, c'est la grâce.
Il y a un type de la femme française?
Bah oui, là, c'est quelque chose d'assez spirituel.
L'esprit, voilà.
L'esprit, oui.
Vous avez l'air étonné.
Non, je suis heureux. Je vous vois tout à coup si différente. Au fond, vous êtes très gentille.
Chut, faut pas le dire.
Pourquoi?
Parce qu'on vous pardonne quelquefois d'avoir réussi, mais jamais d'avoir l'air heureux.
Vous donnez rudement bien le change.
Je suis comédienne. Que voulez-vous, c'est obligé. Par mon contrat, je dois changer mes habitudes. Car malgré soi, pour s'imposer, il faut savoir se proposer une attitude. Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit. Au cinéma, pour qu'on vous lance, être soi-même, c'est interdit. Alors pour être dans l'ambiance, à chaque instant, je m'étudie. Moi, sérieuse, je dois jouer à la poseuse pour me poser. Mais je vous jure que ma nature a du mal à se maîtriser. On dit que j'ai des exigences, on pense que j'en fais des chichis. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Quand je suis dans l'intimité, je reprends ma simplicité, j'en suis heureuse. Je vis pour moi, je m'appartiens, mais au studio je redeviens l'enquiquineuse. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Au cinéma, quelle existence, être soi-même, c'est interdit. Donner de l'importance, il faut bluffer sa réussite. Sur mon visage, je me propose un maquillage dur et moqueur. Pour que l'on m'aime, je dois de même maquiller aussi tout mon corps. Ce n'est rien que pour l'apparence qu'au fond je joue la comédie. Ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit.
Je précise pour les auditeurs hors antenne, c'était intéressant parce que Jean-Pierre Calfon, vraiment, vous écoutez dans le détail chaque petit vibrato, chaque nuance d'interprétation. Vous avez une oreille très technique sur l'art, bah, Yvonne Printemps.
Pas
comme
seulement
ça.
Technique, sensible surtout.
Sensible. Oui.
Puis sensible à cette force du vibrato, comme ça, léger, le vibrato léger. Chaque son est porté, quoi. Chaque son est porté avec une émotion.
On aurait pu évoquer d'autres femmes, hein. Gisèle Casadesus, que vous avez bien connue, notre chère Gisèle.
Une merveille, une merveille.
Voilà, chez qui vous alliez dîner de temps en temps.
Oui, avec Martine Pascal, sa fille qui nous faisait un dîner. Je m'amusais avec Gisèle à lui dire, allez, après on va sortir, on va en boîte et on finira en after. Elle avait 103 ans et ça la faisait beaucoup rire.
Et puis vous avez même une mère adoptive maintenant.
Ah oui, en effet.
Hermine de Clermont-Tonnerre, en plus elle l'a choisi dans la haute société.
C'est elle qui m'a choisi, hein, c'est elle qui m'a choisi comme fils. Alors moi je suis une des rares personnes qui a eu une mère plus jeune que lui. Je suis le seul d'ailleurs sur Terre.
C'est très joliment raconté. Et en tout cas, voilà, on va vous retrouver donc à partir du 11 septembre jusqu'au 15 à la Cinémathèque pour cette rétrospective. Jean-Pierre Calfon, je ne sais pas, j'imagine si c'est vous qui avez fait le choix des films ou en partie ou si on vous a consulté.
En partie, on s'est réunis tous ensemble. Et puis maintenant, je me rends compte, avec le temps qui a passé, on a choisi ces 10 films-là, et je me rends compte qu'il y a plein de films dont on n'a pas parlé. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Le jumeau avec Pierre Richard, Candorman de Walt Disney, Total Western d'Éric Rochant. Comme j'ai fait 100 films, et qu'il faut en choisir 10, il y en a évidemment qui tombent dans...
En tout cas, L'amour fou de Rivette, Les Gauloises Bleues de Cournot, Les Oiseaux vont mourir au Pérou de Romain Gary, et Pierre Granier de Faire une étrange affaire, Claude Lelouch, Une fille et des fusils, quelques autres encore, La Vallée de Barbet Schroeder, j'en parle encore parce que moi j'ai connu ce film plutôt par la musique des Pink Floyd, là
oui,
encore,
c'est ça, hein, voilà.
Mais dans lequel vous avez aussi un rôle très important, là c'est vraiment le monde des années du psychédélique.
Oui.
Et tout ça avec vous aussi qui serez là, donc Jean-Pierre Calfon,
tous
les soirs.
Ah bien sûr, non mais moi je veux dire, j'ai dit à la Cinémathèque, moi je veux bien être là pour, si vous voulez, pour présenter tous les films, parce que ce sont des films que j'aime, que j'adore même, et qui sont pas vus pratiquement maintenant, vous voyez ce que je veux dire. Donc autant que je vienne en parler à ceux qui sont là, s'ils veulent, hein, à la Cinémathèque, quand ils ont besoin de moi, je serai là, voilà.
Voilà, et en musique vous avez des projets ?
Oui, bien sûr. J'ai des projets de faire un concert à Colmar le 27 septembre, là.
Ah oui.
Le jour de l'inauguration, avant le film Les Idoles, qu'on va présenter avec Bull et avec Marco et quelqu'un de la Cinémathèque, Bernard Payen, je pense, ou Frédéric Bonneau, je ne sais pas qui présentera avec moi. Avec mes musiciens, je vais faire quatre chansons, ou trois chansons, avant le show pour présenter le truc. Je vais tourner un court-métrage, il va y avoir aussi le film de Stéphane Casson, un court-métrage de 15 minutes, Panthéon Discount, et je vais en tourner un autre avec lui, c'est pour lequel j'apprends une chanson en allemand, moi qui ne parle pas allemand, j'apprends phonétiquement, vous voyez.
Donc le rocker est toujours là.
Oui.
Bon, merci Jean-Pierre Calfon d'être venu nous raconter tout ça, un bout de votre vie qu'on retrouvera plus complètement dans vos souvenirs. Je propose qu'on se quitte avec Amy Winehouse, vous l'aimez particulièrement cet artiste.
J'adore.
Foudroyé à 28
moi, c'est
ans
Billie
comme beaucoup
Holiday.
D'autres.
C'est comme Billie Holiday, vous voyez. C'est comme Aretha Franklin, c'est comme Janis Joplin, ce sont des déesses.
Voilà, on se quitte.
Partons avec une déesse.
Avec une déesse, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Qui est devenue une diablesse.
Your lips as I soak my feet, and then you know this little carpet burn.
I'm no good, c'était Amy, you know I'm no good, Amy Winehouse, un choix de mon invité Jean-Pierre Calfon, que vous allez donc pouvoir retrouver à la Cinémathèque du 11 au 15 septembre. Et puis vous l'avez compris, je vous recommande également beaucoup de lire son livre de souvenirs « Tout va bien maman » de Jean-Pierre Calfon, qui est paru aux éditions L'Archipel.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et avant de retrouver Serge et Laïc, tiens, un petit trésor. Enfin, moi, j'adore ça. J'aime beaucoup le mélange piano-accordéon. Et là, c'est le grand Tony Murena qui est en duo avec Michel Ramos, alias Virginie Morgan. Il a fait une carrière d'organiste aussi, Michel Ramos, mais c'était un pianiste qui, ici, donc en duo avec Tony Murena, réinvente un exercice de Monsieur Hanon. Ah, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Étude swing de Tony Murena, enregistré en 1941 avec Barreau et Sarane Ferré à la guitare et donc Michel Ramos au piano. Il est midi 14 sur France Musique. C'est l'heure de retrouver pour cette nouvelle saison et pour la première fois notre ami Serge et Laïc. Serge et Laïc, le grand prophète de l'arrangement, des arrangeurs, des chefs d'orchestre. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Mais on le connaissait surtout comme un grand porte-parole de ce métier pour la musique française.
Eh bien non.
Eh bien là, vous élargissez votre champ pour cette rentrée.
Eh oui, alors, on va parler de Glenn Hauser, un musicien américain que j'ai bien connu. Et il a disparu il y a quelques années. Il avait 99 ans, cher Benoît, vous vous rendez compte. Alors Glenn était né aux États-Unis en 1914, de parents russes immigrés, et il était un as de l'arrangement, notamment dans les années 30, pour, par exemple, l'orchestre swing de Benny Goodman. Mais aussi pour le célèbre orchestre de Paul Whiteman. Benoît, vous savez que Paul Whiteman est l'homme qui avait commandé à George Gershwin sa célèbre Rhapsody in Blue. Et pour cet orchestre de Paul Whiteman, Glenn Hauser avait remis au goût du jour dans les années 50 tout un répertoire de Charleston que Whiteman avait en fait déjà enregistré dans les années 20.
Les jolis chuchotements, puisque ça s'appelle Whispering de Paul Whiteman, donc enregistré en 1954. J'ai même le disque 25 cm que vous avez apporté, Serge Laïc, avec cet instrument extraordinaire au début. Hein.
Oui, c'est le slide whistle, le sifflet à coulisses.
Et la donc, flûte à coulisses.
Le sifflet à coulisses. Et c'est Glenn Hauser qui avait donc arrangé ce morceau de Whiteman avait déjà joué, mais bien avant, dans les années 20-25. Voilà. Alors, à partir des années 50, eh bien, Glenn Hauser écrira de somptueux arrangements pour cuivre et cordes, pour des crooners comme Johnny Mathis ou Tony Bennett, mais aussi pour un certain Maurice Chevalier, pour lequel Glenn Hauser arrange 3 albums, rien de moins, enregistrés en 1958 aux États-Unis. Et Glenn Hauser avait gardé un souvenir très vivace de cette rencontre avec Maurice, alors âgé de 70 ans. Maurice Chevalier a été très plaisant avec moi. Il connaissait ses chansons parfaitement et les 3 albums avec lui ont été enregistrés très rapidement. Nous avions notamment réenregistré Mimi, sa chanson bien connue, et Maurice, qui aima beaucoup mes arrangements, me dit « Glenn, vous n'auriez pas un peu de sang français dans vos veines ?» Et Maurice Chevalier se produisait à l'époque au Waldorf Hotel à New York, et son producteur des disques que nous allions enregistrer avec Maurice, donc, nous invita, ma femme et moi, à assister un soir à son spectacle, puis de le rencontrer. Maurice Chevalier nous proposa de boire un verre avec lui. Et nous avions dit OK pour un cocktail. Quel ne fut pas notre étonnement quand Maurice nous proposa, eh bien, de la limonade, du Pepsi, du Coca et surtout pas d'alcool.
The wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not her face, but such a charming face that it's all right with me. It's the wrong song in the wrong style. Though your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not her smile, but such a lovely smile that it's all right with me. You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget,
Don't you want to forget someone too? It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not her lips, but they're such tempting lips that it's all right with me. They're the wrong lips. They're not her lips, but they're such tempting lips that if some night you're free, dear, it's all right. It's all right. Oh, it's all right with me.
It's All Right With Me, une chanson de Cancan de Cole Porter, enregistrée donc en 1958 avec les formidables arrangements de Glenn Hoser. J'ai le disque, là encore, merci pour votre collection, Serge Lévesque. Le 33 tours MGM de 1958, jamais réédité en CD.
Jamais, pour ma connaissance, jamais réédité en CD. Alors, infatigable, eh bien, Glenn Hoser était encore sur la brèche dans les années 80, signant entre autres de superbes arrangements pour cuivre, bois, cordes, pour l'ensemble. L'orchestre du Boston Pops, alors dirigé par un certain John Williams. John Williams, compositeur phare des musiques de La Guerre des Étoiles, de E.T. et de tellement d'autres films à succès. Glenn Hoser se souvenait de sa première rencontre avec John Williams.
He is a fantastic musician and what he does, I think he's just genius.
John Williams est un fantastique musicien et un véritable génie. On le sait moins, c'est aussi un remarquable pianiste de jazz, sans parler évidemment de ses immenses compositions. Pour vous donner un exemple de sa modestie, la première fois que je l'ai rencontré, avant même que je n'ouvre la bouche pour le féliciter, John Williams me dit « Glenn, j'aime votre travail, je sais tout ce que vous avez fait pour la musique. » Je n'ai jamais pu placer un mot pour lui dire mon admiration.
Thank you.
In the Mood, orchestré donc pour une grande formation classique par Glenn Hauser et dirigé par John Williams, un disque de 1984. Serge Laïc, vous nous parlez donc aujourd'hui de Glenn Hauser.
Qui, avec son orchestre, a été le partenaire musical de grands solistes américains comme le saxophoniste Coleman Hawkins ou le pianiste Roger Williams. Et pour conclure cette chronique, eh bien, j'ai choisi de vous faire écouter un autre pianiste, Joe Bushkin, qui aussi va chanter pour l'occasion. Il interprète « Someday You'll Be Sorry », enveloppé par de magnifiques arrangements pour cordes de Glenn Hauser. Je pèse mes mots, un parfait mariage, piano-cordes comme tout à l'heure, accordéon-cordes.
« Someday you'll be sorry » The way you treated me was wrong. I was the one who taught you all you know. Your friends have told you to make me sing another song. Good luck may be with you. And in the future you will find there won't be another to treat you like a brother. Someday you'll be sorry. Like a brother, someday you'll be sorry. Someday you'll be sorry. Someday you'll be sorry.
Joe Bushkin et son sextet avec ses merveilleux arrangements de cordes de Glenn Hauser dans Someday You'll Be Sorry, une chanson de Louis Armstrong. Voilà, c'était la chronique de Serge Laïc sur ce
Merci
grand musicien
Benoît.
Glenn Hauser qui nous a quittés à 99 ans en 2014. Nous,
Absolument.
Serge, on vous retrouve à la fin du mois de septembre pour une nouvelle chronique.
Merci.
S'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Frédéric Potry, Maïwenn Le Jehan, réalisation Christine Amado. Et donc on se retrouve samedi prochain à la librairie Ombre Blanche à Toulouse pour une émission spéciale en direct autour de la grande cantatrice Jeanne Berbier. Amis toulousains, vous êtes bienvenus d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.